Alors Olivier Jouvray, Frédéric Aigret de Salcedo, bonjour.
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 Alors vous venez de publier dans la collection signée du Lombard un album en un tome, donc un one shot, dont le titre ne passe pas inaperçu. Pourquoi vous avez choisi de l'appeler Nous ne serons jamais des héros?
C'est un titre qui est tiré d'une des réflexions d'un des personnages du livre, qui est une réflexion à partir de. Oui, des questions que je me pose sur la façon qu'a ma génération d'aborder l'avenir, de voir un peu comment trouver le moyen de se sentir bien dans son époque. Généralement, ce que je dis toujours, c'est que la génération de mes grands-parents ou arrière-grands-parents ont tous connu la guerre. Mes parents, c'était mai 68. Enfin, il y a des événements comme ça emblématiques qui ont défini une génération. Et quelque part, ils n'ont pas besoin de se réaliser plus que ça, puisqu'ils ont fait partie de la génération qui a changé le monde ou qui a détruit le monde ou peu importe. Et notre génération n'a pas ce genre d'événement emblématique. Les seules manifs qu'on ait fait en 87, ça reste pas non plus quelque chose de très très important. Donc voilà. Et ça veut dire que on sera pas des héros de manière automatique par un événement global et généralisé. C'est chacun qui doit se démerder tout seul dans un environnement qui est plutôt inquiétant. Voilà, parce qu'on nous a appelé la génération X, ou la génération Y, la génération perdue, la génération Sida, la génération chômage. Donc, il faut faire le deuil de cette idée qu'on sera des héros et essayer de grandir d'une autre manière.
Nous ne serons jamais des héros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'a pas complètement quitté l'adolescence, qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie et attend, sans l'admettre, une reconnaissance de son père avec qui il est incapable de communiquer. Et puis un jour, son père, malade et veuf depuis un accident de voiture, lui propose, moyennant finance, de l'accompagner pour s'occuper de lui autour d'un voyage autour du monde. Surpris, mais vraiment à court d'argent, il va accepter d'accompagner donc son géniteur et ça s'avérera être un véritable pèlerinage sur tous les continents. Est-ce que j'ai bien résumé?
Oui, c'est très bien résumé. Et c'est bien de dire justement que c'est un personnage qui n'est pas tout à fait sorti de l'adolescence. Parce que justement, ce que j'essayais de montrer dans cette histoire, c'est que on ne sort pas de l'adolescence simplement parce qu'on vieillit. Il faut quelque chose qui nous fasse sortir de l'adolescence. Et justement, les événements, que ce soit des guerres ou des événements tragiques ou compliqués, font sortir l'adolescence, nous obligent à nous prendre en main, prendre nos responsabilités. Quand on n'a pas ces événements, ce sont d'autres passages, d'autres rituels, d'autres choses qui peuvent nous. Voilà. Il faut une friction, il faut un truc qui soit déclencheur. Et c'est cet événement, cette rencontre entre un père et un fils qui s'entendent pas forcément, qui vont se rentrer un peu dedans, qui vont se détester, se découvrir, se comprendre, etc., discuter, qui va peut-être amener Michael, donc le jeune homme, à sortir un petit peu de son état léthargique.
Sans vous demander hein, si vous êtes toujours dans l'adolescence, j'oserais pas. Est-ce que vous avez mis un peu de vous trois ou dans ce personnage?
Oui, bien sûr. Enfin, les personnages sont forcément inspirés de nous parce que il faut qu'on ait une base pour travailler en fait, sur laquelle s'appuyer sur notre expérience personnelle. Donc après, on est, enfin, je ne suis pas Michael, ni Charles le père, et Olivier non plus, ni Greg, mais bon, ils sont un peu de nous trois en fait, un mélange. Voilà. Notamment Olivier a mis beaucoup de lui dans les personnages.
Disons que quel que soit le scénario, il faut être totalement en empathie avec nos personnages pour bien les camper, bien les présenter. C'est tout un travail, que ce soit pour le dessin, la couleur, il faut être complètement intégré à l'environnement, à l'ambiance du moment pour bien représenter les choses. Et au moment du scénario, il faut que je sois capable de me mettre dans la tête de chaque personnage. Donc forcément, je vais puiser dans mes expériences personnelles, mes souvenirs personnels, même si ce ne sont pas forcément des choses que j'ai vécues, puisqu'il y a une part personnelle au niveau des voyages, une part inventée au niveau des relations des personnages.
Il y a beaucoup de gens qui disent que Michael me ressemble physiquement. Et ça, c'est assez drôle parce que bon, moi je trouve pas, mais je lui ai donné certaines attitudes et certaines manières d'être que je peux avoir des fois, mais c'est pas du tout moi le personnage.
Vous êtes bien mieux coiffé que lui. Au fond, c'est pas facile quand même d'essayer d'expliquer ce qu'il attend de son père et un peu ce que son père attend de lui. Comment vous avez construit ça?
Moi, je suis un gros bavard. J'ai aucun souci pour exprimer mes sentiments. Mon père, avec qui je m'entends très bien, qui est en bonne santé, tout va bien, lui est un taiseux. Il parle pas beaucoup. Donc j'ai dû apprendre à reconnaître dans un clignement d'œil, un vague sourire ou des choses comme ça, des choses qu'il pourrait me dire avec des mots. Et finalement, il me parle beaucoup comme ça. En étant bavard et plutôt grande gueule et plutôt imposant, on le voit, je parle tout le temps, mais je suis tout le temps confronté avec des gens qui ont du mal à exprimer ou qui n'expriment pas les choses de la même manière que moi. Le langage du silence, le langage de l'absence, est un langage que j'ai dû apprendre. C'était pas mon langage d'origine. Et les deux frangins, là, Salcedo, c'est un peu des taiseux aussi, donc c'est pareil. Donc ça nous a permis aussi de nous mettre en condition dans cette BD, enfin, en projection dans cette BD, entre des différentes manières de communiquer, on va dire.
Vous citez Jack Kerouac dans votre livre. D'ailleurs, il y a un passage que j'aime beaucoup. C'est le père de Michael qui le décrit en disant ce que raconte ce con, c'est que des histoires de branleurs alcooliques et misogynes. Là, je me suis demandé qui est-ce qui parlait. Est-ce que c'est Charles ou est-ce que c'est vous, Olivier Jouret?
C'est moi qui parle, parce qu'un des éléments déclencheurs de cette histoire, c'est qu'auparavant, j'ai travaillé sur une adaptation de Moby Dick. Et en faisant mes recherches sur Moby Dick, j'ai découvert que c'était le livre de chevet de toute la génération beatnik. J'ai pas compris pourquoi, j'ai fait des recherches et donc j'ai été amené à lire Kerouac. Et Kerouac, c'est quelque chose, c'est une époque, un romancier emblématique qui a été déterminant pour la littérature américaine. Et je me suis posé beaucoup de questions parce que j'ai trouvé son livre très très chiant. Et effectivement, j'avais l'impression de ne voir que des pérégrinations d'alcooliques, dépravés, complètement, enfin, complètement perdus et qui cachaient cette espèce d'errance, cette espèce de recherche d'émotions fortes, comme si on voulait redonner à la mort son côté terrifiant pour que la vie finalement vaille la peine d'être vécue. Enfin, je trouve ça pathétique, mais c'est enveloppé dans de la littérature, dans un côté un peu classe, dans du jazz, dans du beat, comme ils disent. Et puis tout de suite, ça donne un côté assez intéressant. On voit ça dans le film de Sean Penn, là, avec ce jeune homme qui va en Alaska, je sais plus comment il s'appelle, Into the Wild, où il va en Alaska, cette espèce de trou du cul, excusez-moi du terme, mais qui passe son temps à rater sa vie, à passer à côté de gens qui pourraient lui apprendre plein de choses, passer à côté de gens qui ont de l'amour, de la compassion, de la compréhension à lui offrir, et lui qui dit non, non, je veux vivre ma liberté, ma liberté, ma liberté, et qui va crever comme un couillon dans un bus désaffecté, dans un pré. Voilà, je trouve que, alors c'est très, évidemment, j'en rajoute, mais c'est un petit peu ça, ce que je dis, c'est que il y a ce qu'on vit réellement, et ce qu'on en fait d'un point de vue artistique et littéraire. C'est-à-dire que l'artistique, le littéraire, est capable de sublimer quelque chose qui, au départ, est totalement pathétique.
Vous venez de briser mon rêve, moi j'adore Into the Wild. Je suis triste maintenant. Non, je rigole. En fait, j'ai lu Sur la route, enfin, j'ai jamais fini parce que je le trouvais très, 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 très ennuyeux. Mais, c'est une parenthèse, mais juste, je trouve que dans Into the Wild, il a quand même un bagage culturel et il réfléchit quand même quand. Même s'il tue des caribous avec une hache ou s'il coupe du petit bois, je trouve qu'il y a quand même une réflexion derrière. Il va un peu plus loin alors que dans Kerouac, j'ai l'impression qu'il boit, il avance, il boit, il avance. Je me disais que Kerouac, il représente à la fois un peu Michael et à la fois un peu son père, parce que Michael, il se déplace géographiquement, mais il avance pas plus que ça dans sa tête. Enfin, c'est juste spatial, quoi. C'est pas mental du tout. Je me disais qu'en ça, il pouvait un peu représenter Michael et puis un peu aussi son père. Parce que là, je vais faire mon intello, mais beatnik, ça vient de un peu brisé en argot américain, la beat, et de béatitude en français. Du coup, c'est ce père qui avait plein d'illusions, qui a un peu tout perdu, qui sait plus trop où il va. Finalement, sans le savoir, enfin, j'ai l'impression que ce bouquin les rassemble plutôt bien, il les décrit plutôt bien. Est-ce que je surinterprète complètement?
Non, non, c'est intéressant parce que de toute façon, c'est jamais. Quand on écrit un scénario, c'est jamais une idée et on la suit du début à la fin. C'est un mélange de plein de choses qui viennent se compléter, s'interpénétrer et pour essayer de faire quelque chose d'un peu complexe. Ou moi, ce qui me plaît, c'est quand les gens le lisent et finalement retrouvent un petit peu chacun des expériences vécues, des choses qu'ils ont lues, ce qui leur plaît. Michael est un espace vide, une espèce de réservoir de trucs à remplir, quoi. Il a rien dans sa vie, il a tout à mettre dedans. Donc effectivement, il se déplace géographiquement. Disons qu'il revient pas plein de choses. Il revient avec juste un petit peu dans le fond, suffisamment pour peut-être lui donner envie d'aller plus loin. Mais c'est juste l'événement déclencheur, c'est pas un tout en soi. Et quant au père, lui, il y a c'est un voyage du désespoir. C'est-à-dire qu'il retourne sur les traces de son passé. Non pas pour construire quelque chose, non pas pour finir quelque chose correctement, non, voilà. Il va juste pleurer sur son passé et vivre jusqu'au bout une nostalgie un petit peu pathétique, un petit peu pathologique. Et même au départ, enfin, disons qu'au départ, il se dit, je vais emmener mon fils parce qu'il est corvéable à merci, je lui file le pognon, il fera ce que je veux, il va pas m'emmerder. Puis aussi, en discutant avec lui, qu'il se rend compte que ben, on peut pas voyager longtemps avec un fils avec lequel on a des problèmes sans que certains sujets soient abordés, sans que ça frotte un peu et qu'on soit obligé de se poser des questions et de se remettre en question de toute façon.
Et en fait, pendant tout ce voyage, on a l'impression qu'il comprend toujours pas que lui, il est seul à avoir aucune guerre à défendre. Puis il se rend pas compte que son père, certes, il a peut-être pu partager certaines valeurs, mai 68 et tout ça, mais c'est presque à cause de ses souvenirs qu'il est malheureux. Donc c'est une totale incompréhension. Au fond, c'est quoi le ton général que vous avez voulu lui donner?
Je dirais que c'est malheureux à dire, mais le mot qui me vient directement, ce serait le deuil. C'est pour ça que je l'ai appelé Nous ne serons jamais des héros. Et c'est ce que dit le personnage de Lucie, donc cette jeune femme que Michael rencontre et qui dit ça. Il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil d'une idée fausse de la manière dont il faut réussir sa vie. On est quand même les premières générations à sortir du cadre pour réussir sa vie, il faut à 30 ans, avoir une bagnole, une maison, un chien dans le jardin, c'est les générations dans leur ensemble qui doivent faire ce travail pour sortir de l'adolescence.
C'est une BD vraiment tournée autour du deuil, mais qui est quand même un petit peu satirique parfois, des petites pointes d'ironie. À vous de parler maintenant, vous êtes obligé, c'est à vous que je pose la question. Vous avez signé des albums différents, notamment Ratafia, où c'était pas du tout le même graphisme. Est-ce que dans cet album, on peut parler de caricature ou pas?
Alors oui, il y a des éléments de caricature, surtout dans les moments où on veut introduire de l'humour, parce que ça permet de faire passer l'émotion beaucoup plus facilement. Et je voulais peut-être pas prendre de raccourcis, mais en tout cas aller à l'essentiel et être compréhensible immédiatement, qu'il n'y ait aucun doute sur ce qu'exprime le personnage. Et donc, quand il est drôle, la situation est super drôle, un peu caricaturale. Et quand les moments sont plus intimes, plus délicats, on retombe sur des dessins plus réalistes où c'est plus des gueules, mais voilà, ils ont leur trait vraiment. Et j'aimais bien aussi ce mélange des genres pour amener différentes ambiances, bah, comme dans la vie réelle où on rit, on pleure, on est triste, on est voilà, hyper heureux, ou enfin différentes émotions. Voilà, c'était ça.
Pourquoi on voit jamais les yeux de Michael? On voit tout le temps ses lunettes. J'ai compté, on voit 19 fois les yeux de Michael. En général, c'est vraiment vraiment la caricature. Et le reste du temps, on voit juste le blanc. Alors, je sais pas si c'est le coloriste, si c'est le dessinateur qui a fait ce choix, mais ça m'intrigue un peu.
J'ai fait ce choix pour plusieurs raisons. La première, c'est bon, Michael, c'est quand même un mec qui souvent, enfin, qui est plutôt de nature timide en fait. Et bon, il se cache, il est là, et donc il cache ses yeux derrière les lunettes. Donc c'était un code graphique qui me permettait de toujours de le mettre un peu anonyme. C'est vraiment ça. Puis oui, puis graphiquement, ça m'intéressait. Et il y a juste, c'est vrai, deux moments, je crois, dans le livre où on le voit ses yeux normaux, où il a enlevé ses lunettes, et c'est des moments qui sont justement où le père parle en voix off et on voit Michael qui l'écoute, faisant semblant de dormir, et voilà, donc il parle de lui et là il est sérieux et il écoute. Et sinon c'est à la fin, bon, donc la dernière scène où c'est pareil, c'est un peu plus difficile, et du coup pour moi là c'était là que c'était important de montrer les yeux de Michael. Et tout ça c'est vers la fin du bouquin, et c'est un moment où Michael a déjà un peu grandi et déjà un peu plus mûr en fait.
Ça fait un peu manga finalement, non?
C'est vrai que bon, moi j'ai grandi dans la génération Club Dorothée entre guillemets. Donc voilà, j'ai regardé des dessins animés comme le Collège Foufoufou. C'est vrai que c'est exactement ça quoi. Ils sont tout petits, tout assez, avec des grands yeux. Et ils courent partout quand ils sont contents. Il y a d'autres moments, ils sont super sérieux. Alors des grands plans, des plans contre-plongée où ils sont magnifiés avec des proportions réalistes. Voilà, c'était ça. Et je me suis inspiré de ça aussi. Ça a nourri évidemment mon imaginaire, toute ces dessins animés qui passaient à l'époque. Donc ça vient de là en fait.
Par moment, on a une grande page avec un très beau paysage, et puis on s'en prend presque autant plein la figure que dans ces pages où il y a beaucoup de dialogues, parce qu'il y a une toute petite bulle avec oh, c'est beau, ou merci de m'avoir emmené ici. Et puis c'est vraiment très révélateur de la relation entre les personnages. Je voulais justement vous demander à tous les trois comment ou jusqu'où le cinéma vous avait influencé.
C'est vrai que quand on parle souvent de notre album, on parle de road movie. Donc c'est un terme cinématographique. comme on regarde aussi beaucoup de films, on a une grosse culture cinématographique. On s'inspire aussi du cinéma, puis aussi de la richesse des cadrages, de la mise en scène du cinéma pour la notre bande dessinée. Et je trouve que c'est plus riche comme ça. Enfin, voilà.
Cinéma et bande dessinée sont très très proches dans leur construction parce qu'il y a une temporalité qu'on installe. Et même si une bande dessinée, on peut la lire au rythme qu'on veut, alors qu'au cinéma, on est posé et puis on maîtrise rien, une bande dessinée bien réussie, c'est quand on se plonge dedans, puis on n'en sort pas jusqu'à la fin, et que le rythme reste finalement imposé par les auteurs. Donc ça répond au même genre de code. Le fait de voir des séries, le fait de voir beaucoup de films, influence surtout, je dirais, la manière de faire jouer les acteurs. Parce que on se retrouve à faire le travail de toute une équipe de cinéma, à trois. Il faut inventer les décors, il faut inventer les personnages, il faut les fabriquer, il faut les faire jouer correctement, il faut leur donner la vie. Bref, on fait un travail qui est le même, on fait les mêmes, on fait des repérages, enfin, tout est construit de la même manière. Donc, effectivement, les points communs sont très proches. Automatiquement, l'influence est immédiate. Quant au choix qu'on a fait des grandes images comme ça, c'est un choix de chapitrage. C'est-à-dire chaque changement de pays amène une grande image comme ça pour... Parce que la particularité d'une page où vous avez beaucoup d'images avec beaucoup de textes, on met longtemps à la lire, moins il y a de cases, plus moins on passe de temps à la lire. Mais par contre, s'il y a une seule image, on s'arrête. On prend le temps de la regarder, c'est une pause, c'est une respiration dans la narration. Et ça, c'est un outil qu'on a eu envie d'utiliser justement pour, encore une fois, maîtriser un peu plus le rythme de lecture.
Vous guidez beaucoup la lecture, mais on s'en rend absolument pas compte. Donc, c'est le scénario et le dessin qui font ça. Comment vous arrivez à vous accorder et qu'on ne se rende pas compte?
Je ne peux jamais écrire une histoire si je ne sais pas qui va dessiner. Donc il faut que je connaisse bien le dessinateur, je sache quelles sont ses limites, quelles sont ses capacités, quelles sont ses richesses, etc. Et sa capacité à intégrer une histoire et à l'interpréter. Parce que moi, j'imagine la BD en entier dans ma tête. C'est-à-dire que chaque page que j'écris, où j'écris les dialogues, j'imagine les personnages en train de jouer, de se déplacer, d'agir, de se confronter. Donc j'ai une première version de la bande dessinée dans ma tête. Ensuite, je lui confie cette première version et j'accepte sa version des choses. Parce que lui, je lui dis pas, je veux que ma caméra soit comme ceci, que le personnage soit comme cela, etc. Je lui donne quelques notions de temps en temps, parce que j'ai envie qu'une émotion particulière passe à tel moment, mais je lui laisse beaucoup de liberté. C'est lui qui dessine le storyboard avec les croquis, le machin, etc. pour qu'on comprenne bien. Et souvent, il a des moyens de représenter une scène d'une manière différente de ce que j'avais imaginé au départ. Et ça fait partie du jeu, c'est d'accepter. C'est en ça que c'est une œuvre commune, collective. Mais sur le moment, voilà, c'est une espèce d'alchimie étrange entre nous trois qui fait que on se rend compte en relisant la planche, ouais, c'est bon, ça touche.
Est-ce qu'à chaque fois que vous faites une planche, vous reprenez toutes celles d'avant pour voir si le rythme colle avant de continuer?
Ouais, moi ça m'arrive beaucoup de faire ça par contre. C'est que forcément il y a beaucoup de passages où il y a des ambiances qui évoluent au fur et à mesure des pages. Et du coup, bah, je reprends souvent des séquences précédentes. Déjà pour la variété et aussi pour que ça soit juste.
Je précise que c'est Greg coloriste qui vient de parler parce que il n'y a pas de caméra. Ça permet aussi d'avoir ce sentiment de la temporalité, de voir que les choses avancent et se construisent petit à petit et de créer sa propre frustration pour se dire allez, j'ai envie que ça vienne. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est un drôle de truc.
Au niveau des couleurs, chaque séquence a ses tonalités. On a vraiment l'impression de passer d'un pays à l'autre, d'une température à l'autre. Comment vous avez fait?
Avant, ce qu'il faut dire, c'est que pour la mise en couleur, il y a Fred qui fait un gros lavis au gris sur son ancrage. Et du coup, ça marque en fait les ombrages et lumières que moi je renforce ensuite à la couleur. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai que j'ai essayé de faire sur chacune des séquences une couleur dominante. Mais ça, encore une fois, ça va dans le sens de ce que disait Fred. Ce qui est important, c'est une narration avant tout. Et du coup, je voulais clairement faire une distinction entre chacune des destinations. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une teinte dominante à chacune des séquences.
Est-ce que vous aussi, vous avez, vous Greg Salcedo, vous avez parcouru ces mêmes pays? Comment vous avez fait du coup pour ressentir cette chaleur?
Alors non, pas du tout, j'ai pas eu la chance de voyager autant qu'Olivier. Mais bon, c'est comme pour Fred aussi, nous on a cherché énormément de documentation, bah déjà évidemment sur internet, bouquins, et puis tout à l'heure on parlait de cinéma, on s'est aussi pas mal nourri de films, séries, etc. Mais non, on n'a pas du tout été dans les pays qu'on a illustrés. Hein.
Je dirais que la particularité des couleurs, c'est une appréciation qui est très très personnelle. Donc je ne suis pas intervenu du tout là-dessus. J'ai même pas, j'ai mes propres souvenirs, même si mes souvenirs sont plus liés aux odeurs et aux images qu'aux couleurs. Mais ça, je les ai laissés gérer parce que ça me permettait aussi de découvrir des choses et de découvrir une vision des choses que je n'avais pas forcément, mais qui me convenait très bien, il n'y a pas de problème.
Aux couleurs des, enfin, des ambiances des pays et aussi se rajouter les ambiances des actions qui se passent. Et souvent pour accentuer des actions, on va mettre d'autres dominantes de couleurs pour plus exprimer ce que ressentent les personnages plutôt que l'endroit où ils sont.
Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que tous les composants de la création en bande dessinée peuvent devenir un langage. Et ça fait partie des revendications. Je prends mon habit de syndicaliste pour dire que ça fait partie des revendications des auteurs, pour dire que scénaristes, dessinateurs et coloristes sont tous auteurs. Une bande dessinée, on dit souvent le coloriste est auteur de ses couleurs, mais c'est un langage aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement exprimer que l'herbe est verte et les troncs d'arbres sont marrons, on va exprimer des ambiances, des émotions, et ça peut vraiment participer à la narration. Donc ça, c'est très très important. Ouais.
Alors juste une question syndicaliste, est-ce que ces trois métiers-là, est-ce qu'ils sont tous sur le même pied d'égalité?
Généralement, scénariste et dessinateur sont à peu près traités de la même façon. Disons qu'au niveau des éditeurs, il y a un package qui est proposé aux auteurs qui exclut souvent le coloriste. C'est aux scénaristes et dessinateurs de se débrouiller entre eux pour se partager les avances sur droit, etc., les droits d'auteur, etc. Si le coloriste obtient des avances sur droit correctes et des droits d'auteur sur les ventes, c'est souvent d'une volonté des autres auteurs qui revendiquent ça. La bande dessinée est une œuvre de collaboration et les collaborateurs doivent être traités de la même manière. C'est indispensable, je dirais.
En fait, vous faites tous les trois partie de cette génération X, comme vous disiez tout à l'heure, et moi aussi, hein, je sais pas.
Merci Y.
Est-ce que vous ressentez, vous aussi, ce mal-être ou cette impression de non-légitimité, enfin, de pas trop savoir ce que vous allez faire pour marquer un peu votre passage sur Terre. Enfin, c'est un petit peu exagéré, mais.
Alors ça, c'est une appréciation personnelle vraiment, mais moi je le ressens pas vraiment parce que j'ai très tôt su ce que je voulais faire. Je savais que je voulais dessiner et ça, du coup, ça me donne un but et ça me donne, enfin voilà, j'ai un objectif très précis et du coup, je me suis pas senti perdu comme plein de gens. Les premières fois que j'ai commencé à discuter avec des gens de ma génération qui me disaient, bah moi je sais pas trop ce que je vais faire, alors j'essaie de faire ça, machin, et j'avais du mal à comprendre parce que moi, pour moi, tout était très clair. Donc, j'ai pas ressenti ça de cette manière.
Moi, je l'ai un peu plus ressenti avant. Maintenant, c'est un peu comme Fred, c'est-à-dire que je sais plus où je vais, mais c'est quand même une question qui reste un petit peu en suspens. C'est-à-dire que j'y pense toujours, même si c'est beaucoup moins important qu'il y a quelques années. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que le scénario d'Olivier m'a beaucoup touché, c'est parce que j'avais eu le sentiment d'avoir eu exactement ce ressenti-là. Donc ouais, je pense que c'est vraiment une question qui touche énormément de gens de notre génération, et c'est pas du tout rare, même si c'est pas forcément dit, qu'on rencontre des gens qui se posent tout à fait ce genre de questions. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier aux personnages dans cet album.
Moi, c'est un peu comme Fred, mais sur un point différent. C'est Fred a su très tôt ce qu'il voulait faire. Moi, j'ai su très tôt que je voulais faire plein de choses. Donc, je n'avais pas d'objectif précis, mais un objectif très vague. Mais par contre, bien déterminé à y arriver. Disons, je me rappelle, voilà, quand je disais tout à l'heure, quand j'étais en troisième, déjà en troisième gamin, avec les profs qui nous disaient, votre premier employeur, ce sera la NPE, faut pas vous faire d'illusions, nous appeler la génération X. Et moi, ça me mettait dans une colère noire. Vraiment une envie de dire, mais il y a pas de fatalité là-dessus, foutez-nous la paix. Après, effectivement, on a eu droit à la génération Y, c'est plus la génération de Fred et Greg, que je pense qu'ils vont passer toutes les lettres de l'alphabet, mais ce qui se cache derrière est la même chose. Aujourd'hui, je suis prof de bande dessinée à l'école Émile Cole à Lyon, donc en gros, je vois chaque mois 180 élèves qui ont entre 20 et 30 ans, et dont une bonne partie, vraiment une écrasante majorité, ont l'air perdus. Ont l'air perdus et de tâter dans le noir pour essayer de savoir s'il y a une porte de sortie quelque part et d'aller dans tous les sens. Il y a un côté désespéré, pas désespéré, mais fataliste, un peu. Ouais, pareil, ça manque d'ambition, d'énergie, il y a plein de choses qui leur passent au-dessus de la tête, et je trouve ça désespérant. Désespérant. À toutes les époques, on a trouvé que les jeunes étaient des glandus et qu'ils savaient rien foutre de leurs 10 doigts. Et c'est donc ça, finalement, peut-être que les choses ne changent pas tant que ça. Mais voilà, moi, je voulais faire plein de trucs, et chaque fois que je voyais des copains autour, voilà, aussi, ceux qui m'agaçaient beaucoup, c'est les aquabonistes, comme je les appelle, c'est-à-dire ceux qui disaient à quoi bon, ou les faut-voiriens, c'est-à-dire que ceux qui disaient, oh, oui, il faut voir. Chaque fois qu'on proposait un truc, ouais, on va faire un pique-nique, on va faire une virée, on va faire la muraille de Chine à saut de mouton. Ah ouais, faut voir. Ouais, moi, ça me saoulait, ça. Moi, je voulais faire 40 000 trucs. Et...
En tant qu'auteur, en tant que créateur d'aventure, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu des héros de la vie moderne?
Ouais, je dirais pas qu'on est des héros. Les héros, ce sont des personnages. Nous, on leur a donné la vie. Ils ont leur vie propre. Après, ils vivent leurs aventures, et qu'ils plaisent ou pas aux lecteurs. Mais nous, on n'est pas des héros, non. On est des dessinateurs. Ou scénaristes, ou coloristes.
D'ailleurs, c'est vrai que on voit souvent que les lecteurs ils connaissent par cœur nos personnages, mais ils nous voient jamais, ils savent même pas à quoi on ressemble. Donc du coup, je suis pas sûr qu'ils nous voient comme ça, mais ils voient plus les personnages clairement comme des héros plutôt que nous.
Après, je dirais que ça dépend ce qu'on met derrière le mot héros. C'est un petit peu aussi la question que je pose dans ce bouquin. C'est plus j'y réfléchis et plus je me dis que je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a trouvé le moyen de se sentir bien dans ses baskets? Si c'est ça, alors ouais, je suis un héros. Il n'y a pas de problème parce que je suis bien dans les baskets. Je vais au boulot le matin avec le sourire, la banane jusqu'aux oreilles. Et si c'est ça, être un héros, ça me suffit, ça me va très bien. C'est le rapport qu'on a à l'idée du héros qui est parfois un peu tordu. C'est pas parce que ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est pas que les gens me voient comme un héros. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens aiment mes bouquins. Qui m'aiment, moi, je m'en fous. C'est pas, je les connais pas, ça m'intéresse pas. C'est ma femme qui m'aime, j'ai mes copains qui m'aiment, j'espère. Le reste m'intéresse pas. Voilà. Nous, on fait que transmettre des choses. Après, on a effectivement un boulot qui est entouré d'une aura un petit peu sympathique. De l'idée de réussite, de passion, de faire des choses qui nous intéressent vachement. Mais c'est comme tous les boulots, il y a une part un peu sympa, puis une part un peu pénible où on se retrouve à travailler pendant des mois et des mois dans un atelier pas toujours bien éclairé, avec obligé de se concentrer un maximum sur des petits détails. Voilà, on a l'impression d'être des neuneux qui fabriquent des tours Eiffel en allumettes. Et puis à se retrouver en dédicace, à se taper des dessins à la chaîne finalement comme à l'usine. Donc je caricature un peu, mais... Il faut, c'est intéressant qu'on en parle justement pour casser un peu les mythes et puis faire tomber les idées fausses, parce qu'on se retrouve aussi régulièrement en face de jeunes gens qui comprennent pas qu'on voyage pas en Porsche, en hélicoptère parce qu'on a vendu quelques bouquins. Je ne vis pas que de la bande dessinée, je suis prof à côté, sinon c'est la dèche, donc il n'y a rien de glamour extraordinaire là-dessus. Mais voilà, pour moi c'est qu'est-ce que ça veut dire héros, mais ça sera un débat beaucoup plus important, beaucoup plus long.
Mon entretien se termine là. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci.